vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bosser pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Derrière son rôle, d'où viens-tu? Que fais-tu seul avec ses regards? D'où viens-tu? Que veux-tu? Un PD, un zonard.
Chienne ou fatale, de te mettre à feu et à sang. Bad side of town.
Piranhas sur mes neurones, dis-toi je suis dans le GNB. Guitariste, je suis fini. On se va à club sans ton bouson.
Bad side.
Libre, Radio Libertaire. Bonsoir les amis. Yves au micro, Laurent à la technique. Eh bien, ça faisait longtemps que nous n'avions pas été en direct dans les studios. Donc, je vous rappelle le numéro 01 43 71 89 40. Vous êtes sur Radio Libertaire. N'oubliez pas également de télécharger la souscription pour nous aider à maintenir le matériel. N'oubliez pas que nous sommes bénévoles, que nous sommes rattachés à la Fédération anarchiste et que nous avons besoin de votre soutien, aussi bien moral, mais également matériel. Vous pouvez réécouter l'émission à la fin de la diffusion en podcast sur le site radiolibertaire.net. Vous avez également l'agenda, l'ensemble de la grille des programmes et tous les podcasts disponibles pendant 12 mois. En ce qui concerne Jazz Lib, vous remarquerez qu'il est divisé en deux, première partie, deuxième partie. Vous pouvez regarder ma page Facebook Yves Jazz Lib, éventuellement Instagram Jazz Lib l'émission, mais je m'en occupe assez peu en ce moment, je m'en excuse, je mettrai peut-être un petit peu plus de choses. Vous pouvez m'adresser à dk51@sfr.fr toute demande concernant à la fois les playlists, etc., etc. Alors, toutes les émissions que vous avez entendues cet été et un petit peu avant étaient enregistrées at home, dans mon studio personnel, et j'espère que les playlists, les trois playlists que je vous ai passées vous ont détendu pour l'été. Voilà, il y avait beaucoup de choses très uniquement personnelles en réalité. Voilà, par contre la rentrée va arriver avec son lot de nouveautés. Dans maintenant un petit peu moins d'une heure, nous aurons la visite de notre invité Diego Humbert pour la présentation de son nouvel album En Quartet, Le Temps Suspendu, avec David Elmalek, Quentin Gomary et Franck Agulon. En attendant, nous allons commencer par des nouveautés. Alors, des nouveautés, pour cette première heure, il n'y en aura que deux. La première est une nouveauté, la deuxième est un document assez exceptionnel. Alors on va commencer d'abord par la nouveauté. Il s'agit d'une pianiste, vous allez me dire encore une pianiste, mais bon, non, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas que des pianistes que je vous présente. Celle-ci s'appelle Miki Yamanaka, et qui est donc japonaise, comme son nom l'indique, mais qui vit à New York depuis 2012. Elle a 33 ans et elle est très très inspirée par Chick Corea. Je veux dire, la première fois que j'ai entendu, j'ai dit « Oh là, tiens, c'est curieux ». Bon, évidemment, comme vous le savez, comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, voilà. C'est une pianiste vraiment qui connaît tout le répertoire, hein, 33 ans, et ils connaissent tout. Ils sont médaillés comme des généraux russes, voilà, on n'a plus rien à leur dire. Après, reste la créativité. Alors là, pour l'occasion, elle joue à la fois du piano, du Wurlitzer. Alors le Wurlitzer, petite parenthèse, c'est un piano électrique qui était un tout petit peu concurrent du piano Rod Fender. Personnellement, j'ai toujours préféré le Rod Fender, mais le Wurlitzer avait aussi son charme. Il a été utilisé dans le rock, la pop, un peu la soul, tout ça, le rhythm and blues, comme on disait à l'époque, mais peu en jazz. Donc c'est un piano électro-acoustique avec un son un peu particulier qui peut se rapprocher légèrement du piano Fender, mais avec moins de consistance, moins de sustain, c'est-à-dire moins de longueur de son. C'est un instrument qui est plus difficile à maîtriser en réalité. Voilà. Il est accompagné pour l'occasion par le saxophoniste Mark Turner, quand même, hein, ça paye quand même du beau monde, Tyrone Allen à la basse et Jimmy McBride à la batterie, voilà, donc ce sont des gens qui sont très très connus. Alors, que vous dire, en fait, elle avait joué avec beaucoup de musiciens, puis comme vous le savez, le Covid a un peu mis tout par terre, enfin ça a beaucoup beaucoup perturbé tout le monde, et donc elle avait un peu l'habitude de jouer avec Mark Turner, mais là ils ont décidé finalement de faire un disque ensemble. On va écouter le premier titre qui s'appelle That Ain't Betty. C'est parti, Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire. Alors, nous allons reprendre depuis le début. Le titre de l'album s'appelle Shades of Rainbow. La pianiste s'appelle Miki Yamanamaka. Et ça va sortir demain. Voilà. Ça sort chez Cellar Live Records. Donc je rappelle Mark Turner au saxophone, Tyrone Allen à la contrebasse et Jimmy McBride à la batterie. Que vous dire, elle a joué donc... alors oui, elle fait partie de cette génération de jeunes musiciens qui ont joué par Internet pendant la pandémie. Voilà, ça a été un moyen... De continuer à faire de la musique avec la technologie moderne. J'avais posé la question à beaucoup de musiciens en France qui sont venus après et qui m'ont dit que non, ils n'avaient pas eu envie de faire ça. Mais bon, voilà, c'est aussi, je ne juge pas, ça fait partie des choses qui peuvent être un échappatoire. D'autant que lorsqu'on connaît les États-Unis, bon, voilà, c'est un peu particulier. Donc, elle a joué avec beaucoup de musiciens. Elle a joué notamment avec le saxophoniste alto Antonio Hart, qui est moins connu du grand public, mais que nous connaissons ici, évidemment. Et puis, elle est adoubée par le pianiste et organiste, Larry Goldings, qui avait fait de très, très bons disques avec Pat Martino, notamment. Voilà. Alors, il est à noter que Miki Yamanaka, joue sur scène avec des kimonos. Elle a une collection de kimonos et elle joue sur scène avec ses kimonos japonais. Donc, il y a à la fois le côté visuel et évidemment le côté musical. Donc, on va continuer avec un autre titre de cet album qui s'appelle You-Ho. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, donc on voit évidemment une virtuose, hein, comme souvent maintenant. Et puis vous avez pu avoir ce son de ce clavier Wurlitzer qui est plus aigrelin, plus court au niveau que le Fender. Bon voilà, c'est mais bon, je pense que n'importe quel instrument passé entre ses mains aurait le même effet. À noter toutefois qu'elle est sortie déjà un disque précédent qui s'appelait Stairways to the Stars, c'est-à-dire les escaliers vers les étoiles. Et donc, toujours avec Mark Turner. Donc, on continue un dernier extrait de cet album. Alors, je ne sais pas s'il y a une incitation à consommer plus ou moins, mais bon, voilà, je vous livre le titre de l'album, s'appelle Gin. Gin comme pas les Blue Jeans, mais Gin plutôt la boisson. Voilà, c'est parti, Laurent. We'll be right back. Radio Libertaire, alors, dans c'est l'extrait qu'on vient d'écouter, au niveau du jeu du piano, il y a, pour ceux qui ont un petit peu de corpus historique en mémoire, quelque chose qui rappelle un peu Leni Tristano. Il y a donc quelque chose dans la culture de cette pianiste absolument à 180 degrés. Hein, donc elle va puiser l'ensemble de son inspiration dans les grands... Ce qui n'est pas du tout une critique négative de ma part. Au contraire, citer Leni Tristano pour moi est plutôt extrêmement positif. Pour rappel, Leni Tristano était un pianiste aveugle, très copain avec Charlie Parker. Il y a d'ailleurs, il va falloir que je vous passe ça un jour, un duo Tristano-Parker, assez rare. La qualité d'enregistrement n'est pas top, mais le document est exceptionnel. Donc oui, vous me ferez penser, chers auditeurs, à vous passer ce duo absolument époustouflant. Donc, je rappelle le titre de l'album « Shades of Rainbow », inutile de le chercher ce soir, ça paraît demain seulement, avec Miki Yamanaka au piano, au Wurlitzer et aux compositions également, avec Mark Turner au saxophone, Tyrone Allen à la contrebasse et Jimmy McBride à la batterie. Excellent album, je vous recommande. Voilà, en plus, elle porte des kimonos, et le kimono est un vêtement tout à fait impressionnant.
C'est pas une abaya, hein.
Non. Notre technicien me dit c'est pas une abaya, certes, non, ça n'a rien à voir. Elle ne se couvre pas la tête à alouette. Bon, je ne vais pas polémiquer sur ce sujet parce que sinon je vais partir dans des élucubrations politiques qui nous amèneraient loin et je n'ai pas envie de m'énerver. Le jazz est une musique faite pour apaiser, comme disait... l'histoire des morses sur la banquise qui voient passer une moujique et qui arrête de se battre. Et donc la moralité, c'est la moujique adoucit les morses. Voilà. Mais à chaque fois, je vous la refais. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de tout à fait... non pas exceptionnel, mais c'est un document. Alors, il s'agit... d'un inédit de John Coltrane au Village Gate qui a été enregistré en 1961. Alors, on va commencer par le moins bon. Le moins bon, c'est que c'est pas très très bien enregistré parce que, à juste titre, les ingénieurs du son qui ont repris l'ensemble des bandes ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de conserver au maximum, je dirais, l'esprit, l'ambiance et que ça reste lisible. Mais la qualité de son n'est pas au rendez-vous comme elle aurait pu l'être dans les albums en studio avec Rudy Van Gelder, parce que évidemment Rudy Van Gelder était le magicien de chez Impulse qui a aussi permis à John Coltrane de s'épanouir et de lui donner carte blanche avec en plus l'arrivée du 33 tours, du micro-sillon, qui permettait d'enregistrer jusqu'à 40 minutes de musique, donc c'est absolument important. En revanche, cet album qui vient de sortir, Evenings at the Village Gate, avec Coltrane en quintet avec Eric Dolphy, est absolument un document, je dirais, fait pour les coltranophiles ou les fans absolus. Mais toutefois, quand même, je dois préciser plusieurs choses. La première, c'est que il y a Eric Dolphy, évidemment. Avec Eric Dolphy, je dirais que il y a finalement assez peu de traces. Il y a le Village Vanguard, il y a aussi quelques sessions qu'on trouve sur YouTube en Scandinavie. Et puis, la deuxième raison d'avoir cet album, c'est qu'il y a enregistré en public le thème Africa, qui, évidemment, est extrait des sessions Africa Brass. Vous savez qu'il y avait au départ un seul album, et puis finalement, il y a eu un deuxième album qui a été ressorti avec un big band derrière, dont Eric Dolphy, qui est à la clarinette basse, à la flûte et à l'alto. Et donc, dans cet album, il y a, je dirais, une photo instantanée d'un moment. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on écoute une musique enregistrée en studio, on n'a pas... comment dire ? C'est une photo dans l'évolution d'un musicien. Mais chez Coltrane, c'est extrêmement important parce que son évolution est très rapide. Enfin, très rapide, oui. Elle commence en 1958, en gros. 59, c'est Kind of Blue. Et puis, petit à petit, il va développer son discours, sa personnalité. Et il meurt en 1967. Donc, c'est relativement court comparé à Rollins qui jouait encore il y a 10 ans, quoi. Donc, voilà. Ou Wayne Shorter qui vient de nous quitter. Donc, c'est un musicien qui avait une certaine urgence. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans cet album tout le schéma en marche de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, jour après jour, ils vont peaufiner, ils vont polir la pierre en permanence et trouver une aisance et tous les trucs qui vont faire que ça va fonctionner de manière absolument géniale. Et donc, c'est un document que je vous propose qui est vraiment exceptionnel parce que il revient là comme ça des fonds de tiroir. Il est adoubé par le fils de Coltrane, par Ravi Coltrane. Il y a une interview de Branford Marsalis et de Laetitia Benjamin qui avait fait un hommage à Coltrane, et évidemment Branford Marsalis qui avait aussi fait tout un hommage à Coltrane avec la suite All of Supreme. D'ailleurs, c'est un des rares qui a osé se frotter à ce chef-d'œuvre. Et ce qui est tout à fait étonnant également, d'ailleurs, c'est que All of Supreme, mais y compris My Favorite Thing et tout ça, font partie des meilleures ventes de disques de jazz au monde. Alors que pourtant, on est dans une musique extrêmement complexe, extrêmement sophistiquée, extrêmement libertaire, même si Coltrane a une vision mystique des choses. Néanmoins, comme vous le savez, je vous ai souvent expliqué, cette espèce de dualité complexe aux États-Unis où on peut être croyant et en même temps avoir un discours politique. Donc l'absence de vision politique chez Coltrane, elle est pas là. Enfin, je veux dire, il a conscience de la situation politique. Martin Luther King va se faire assassiner, John Kennedy, etc. Les marches pour les droits civiques, qui, je le rappelle, avaient été donné par Lincoln un siècle auparavant. Hein. Il a fallu quand même un siècle de lutte avant d'arriver à quelque chose d'à peu près potable. Donc tout ça, il est parfaitement conscient. Simplement, il est dans une démarche mystique et toute sa musique est liée à ça. Voilà, c'est un document. Il faut pardonner l'aspect purement sonore, mais il y a oui, alors, dernier point aussi important, je m'excuse de refaire un aparté dans l'aparté, c'est qu'il y a aussi, à un moment donné dans Africa, que j'espère que nous pourrons l'écouter en entier, il y a un deuxième contrebassiste, ce qui donne évidemment aussi l'idée que déjà en 1961 il commençait à partir vraiment sur les terres de Fréjas. Voilà, donc c'est vraiment une photo pour comprendre comment jour après jour Coltrane a mis en place sa créativité, son discours, sa démarche, sa musicalité. Et Une chance également d'écouter Eric Dolphy. Eric Dolphy, comme vous le savez, va mourir en 64 en Allemagne à cause d'une erreur médicale. Il était diabétique, il ne le savait pas. Il avait transporté dans sa valise des pots de miel parce qu'il mangeait du sucre. Et donc, il s'est trouvé mal à un moment donné. Et les médecins ont pensé qu'il était drogué, comme tous les musiciens de jazz de l'époque. Et en fait, suite à cette erreur de diagnostic, eh bien, il est mort. Et donc, Coltrane était très, très, très triste de cette disparition. Je sais que la mère d'Eric Dolphy avait donné la clarinette basse à Coltrane et il devait en jouer, et lui-même est parti trop tôt pour ça. Donc nous allons commencer évidemment par le tube de chez Tube, si on peut appeler ça un tube de Coltrane, c'est le fameux thème Impression qui est évidemment totalement impressionnant. Voilà, vous êtes parti pour plus de 10 minutes de musique. C'est parti Laurent. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire. Donc évidemment, vous pardonnerez un petit peu le son qui a malgré tout été remis au mieux de ce qui était possible. À noter dans cet album que je vous recommande, hein, Evenings at the Village Gate, pardon, qui est sorti le mois dernier, je crois. Hein. Il y a aussi Greensleeves, hein, vous savez, l'air traditionnel, et puis My Favorite Things, et puis quelque chose que Coltrane avait peu l'habitude de jouer à cette époque, c'est-à-dire des vieilles chansons, des vieux standards, et notamment il y en a un qui s'appelle When Lights Are Low de Benny Carter, l'altiste dont évidemment beaucoup de musiciens ont été très influencés, non seulement par Lester Young mais par Benny Carter, qui est un musicien vraiment exceptionnel avec une très longue carrière. Et donc là, nous allons terminer en attendant l'arrivée de notre contrebassiste Diego Humbert pour la présentation de son album Africa. Donc voilà, c'est vraiment le document, puisque ça a été enregistré en public et que c'est très très rare. Et donc pour l'occasion, il faut noter qu'il y a deux contrebassistes, il y a Reggie Workman et Steve Davis. Voilà. Donc évidemment, il y a un très beau livret d'une petite trentaine de pages, je crois. C'est chez Impulse et c'est pour les aficionados de Coltrane, un incunable, comme on dit. Voilà, c'est parti pour 20 minutes de musique sur Africa, qui, je crois, est la seule version enregistrée, en tout cas en public. C'est parti, Laurent. We'll be right back. Radio Libertaire, je suis désolé de couper le sifflet à Elvin Jones. Bonsoir Diego, merci de venir pour nous présenter ton nouvel album. Mais alors, juste avant, et je m'excuse de faire cette parenthèse, mais juste avant, tu viens de m'apprendre une triste nouvelle.
Mais c'est un poste que je viens de voir.
Attends, t'entends pas. C'est quel micro ?
C'est celui-là. Bon, je sais pas, il n'y a pas de numéro.
C'est le bleu.
Vas-y, Diego.
Oui, vous m'entendez ? Oui, donc j'ai vu un post en arrivant qui disait que Richard Davis venait de décéder.
Alors donc, je dirais que ça, malheureusement, ça tombe à pic, puisqu'il joue dans cet album inédit qu'on a retrouvé des bandes. Alors, très très vite, il était né en 1930, donc il avait l'âge de ma maman. Il a étudié très très vite, on va faire court, à l'école du sable, comme un certain nombre de grands musiciens, comme Nat King Cole, Johnny Griffin et Jen Ammons. Il a accompagné Andrew Hill, Ahmad Jamal, Sarah Vaughan, et puis évidemment, donc là, Coltrane et Dolphy, Roland Kirk, bon, après, je crois qu'il a un peu accompagné beaucoup de monde. L'orchestre de Fan Jones et Mel Lewis, évidemment. Mm-hmm.